Bonjour à tous et à toutes. Je remarque qu'on est plus nombreux aujourd'hui. Déjà, les vacances se terminent. Mais est-ce qu'on peut vraiment être en vacances? En tant que chrétien, est-ce que le mot vacances convient bien? Aujourd'hui, je veux parler de combat, moi, plutôt que de vacances. Parce que nous sommes tous et toutes amenés à mener un combat. Pas simplement un combat extérieur, mais un combat intérieur. Nous sommes les uns et les autres amenés à résister. Résister, c'est un combat. S'opposer à l'adversaire, c'est un combat. Ce n'est pas toujours attaquer, mais c'est souvent résister. Et résister avec toute l'autorité que Dieu nous donne. Je disais dimanche dernier, j'étais à Lussanger, comme j'y vais une fois par mois, on parlait de résister. Et on parlait de cette femme pendant les draconades qui ont eu lieu au XVIIIe siècle, où nous, en tant que chrétiens, nous étions persécutés, poursuivis à cause de notre foi et de notre engagement, combien d'hommes sont partis aux galères et n'en sont jamais revenus. Mais ils ont résisté, ils ont tenu ferme néanmoins. Des femmes ont été enfermées, et il y en a une particulièrement qui s'appelle Marie Durand, qui a été pendant 38 ans enfermée dans la tour de Constance, dans le sud de la France. Et elle avait gravé sur la margelle du puits ce mot simplement « résista » en occitan. « Résista ». Elle a tenu tout au long de ces 38 années. Des femmes ont abandonné la foi pour être libérées. Elles ont quitté leur engagement initial pour retrouver des anciennes traditions. Elle a tenu ferme. Et elle a été libérée. Libérée. Elle n'est pas morte en prison, elle a été libérée. Elle a résisté, elle a mené le bon combat de la foi. Elle a été celle qui a tenu ferme pendant ses 38 ans, enfermée, isolée. Alors nous, aujourd'hui, sommes-nous amenés encore à résister aussi, malgré que nous sommes libres, apparemment? Est-ce que cette liberté que nous avons dans le quotidien de notre vie est un bon élément de combat ou alors il faut réfléchir à ce que nous vivons? Le mois dernier, lorsque j'ai apporté la prédication, c'était « choisissez », un choix. Le choix de vivre pour Dieu ou de vivre pour soi. Aujourd'hui, frères et sœurs, dans la position où nous sommes dans ce monde, nous voyons combien les choses sont de plus en plus difficiles. Nous avons à tenir ferme et résister face à l'adversaire. Et je voudrais vous lire un passage simplement dans la première épître à Timothée, dans le chapitre 1. Ce sont des lettres personnelles que Paul a écrites à un de ses plus proches, qu'il appelle son enfant, qu'il appelle son fils. Et il lui apporte, à travers ce courrier, cette épître pastorale, comme elle est dite, où on parle de tout ce qui est la fonction de serviteur de Dieu, véritablement. Ici, il dit, à partir du verset 18, une chose importante, Paul à Timothée. « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. » Il cite quelques noms. Ici, donc, le commandement que je t'adresse. Et je voudrais dire aussi, peut-être, j'ose peut-être le prononcer, dire, C'est ce que je dis aussi à l'ensemble d'entre vous, individuellement. Le commandement que je t'adresse combat le bon combat de la foi avec une bonne conscience. Timothée a été laissé à Éphèse par Paul pour veiller sur l'Église. Il n'était ni pasteur, ni apôtre. Il n'avait aucune charge véritable, mais il avait reçu un don particulier. Et Paul utilisait ce don pour que Timothée puisse être celui qui apporte les bonnes paroles à cette église d'Éphèse, qui a commencé déjà à baisser. Il y a 5 ans, il y avait 5 ans que l'église existait, et déjà il y avait des troubles, il y avait déjà des difficultés, il y avait de fausses doctrines qui couraient. Et Paul a demandé à Timothée d'exercer l'autorité par intérim sur cette église. On connaît les passages, certains passages, dans le chapitre 3, on parle des qualités que doit avoir un apôtre, ou du moins un évêque, un pasteur. Et tout le reste, c'est des conseils ecclésiaux pour que l'église fonctionne bien. Mais je ne veux pas faire un discours là-dessus. Ce qui est important, c'est que le mot qui est dit, ces mots, tu combats le bon combat de la foi, en ayant gardé une bonne conscience. Un bon combat, il y a aussi un mauvais combat. Le mauvais combat, je crois, c'est de vivre selon sa chair, de penser selon sa chair, d'exercer une autorité selon la chair, et non pas selon l'Esprit de Dieu. L'inspiration que Dieu peut donner est importante. Et on peut avoir de très bonnes pensées qui ne sont pas de Dieu et qui ne donnent pas des résultats convenables. Paul a dit, si nous marchons selon dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Combattre selon la chair, c'est le mauvais combat. Et combattre selon l'Esprit de Dieu, c'est le bon combat. Paul disait, nos armes ne sont pas charnelles, mais puissante par la vertu de Dieu. On a besoin de discerner ce bon combat. Et ce combat, tout d'abord, pour Timothée et aussi pour nous, c'est un combat qui n'est pas extérieur à l'Église, qui est quelque chose qui est présent dans l'Église. Nous avons besoin de le vivre dans le quotidien de notre vie. Annoncer la vérité. Face à une avalanche de fausses doctrines. Aujourd'hui, si vous écoutez, si vous allez sur Internet, moi j'y vais rarement, mais on trouve de tout, du bon et du mauvais. Et on a à discerner ce qui est bon et à rejeter ce qui est mauvais. On peut être tenté par toutes sortes de doctrines aujourd'hui. Elles sont belles, de beaux discours, de belles paroles. Mais ce qui importe, ce n'est pas les paroles, c'est la vérité. Sur ma Bible, c'est marqué « Ta parole est la vérité ». Sur l'enveloppe, sur la couverture. « Ta parole est la vérité ». Et nous devons vivre cette parole pleinement, richement. Certains disent « Oui, c'était écrit par des hommes. La parole de Dieu n'est pas vraiment la parole de Dieu. Bon, on peut l'utiliser quand même. On peut en parler de façon philosophique et non pas selon de façon spirituelle. » Et on entend toutes sortes de discours. On enlève la valeur à la parole de Dieu. On dit qu'elle n'est pas vraiment la parole de Dieu. Et que ces hommes, bon, ils ont fait des belles choses, mais aujourd'hui, ce n'est plus valable. Aujourd'hui, oui. Il dit que c'est un mystère. L'église d'Éphèse, quelques années plus tard, on peut dire une bonne trentaine d'années plus tard, peut-être un peu plus, dans l'Apocalypse, dans le chapitre 2 de l'Apocalypse, on parle de l'église d'Éphèse. Elle reçoit d'énormes compliments de la part de l'ange. Mais, il y a une chose qui manque, mais tu as oublié, tu as perdu ton premier amour. Le premier amour. Le combat ne se fait pas d'une façon matérielle, d'une façon physique, mais se fait avec le cœur. Avec un cœur qui est donné au Seigneur, mais qui est aussi donné à l'Église. Combien de fois Jésus a dit « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Aimez-vous les uns les autres. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, n'est-ce pas? Mais ce qu'il compte, c'est que l'esprit est bien disposé et qu'il est prêt à briser toutes les portes qui se ferment et qui empêchent que l'amour soit manifesté. On sait qu'il y a tellement de dénominations chrétiennes aujourd'hui. Il y en a. Est-ce qu'on s'aime? Ou est-ce qu'on est en train de se juger, de se condamner? Ou on est en train de s'aimer? Le combat, c'est dans l'Église. Un combat véritable où nous devons proclamer les vraies paroles, les saines paroles de l'Écriture. Ça veut dire que je suis un peu comme emballé, mais c'est vrai. Je me rends compte que de plus en plus, on peut se froidir, se tiédir, et oublier tout ce que Dieu a pu faire, tout ce qu'il a accompli au milieu de nous. Être exalté, encouragé par la puissance que Dieu manifeste dans les vies des uns et des autres. Moi, je me réjouis toujours de voir avec quelle joie, avec quelle exaltation nos nouveaux baptisés s'expriment. Ça fait du bien aux plus anciens. Combien on voit de jeunes qui sont pleins de feu. Et parfois on dit, attention, calme-toi un petit peu, tu vas voir ce qui va t'arriver, hein, tu vas comprendre. Mais non, comprendre quoi? C'est vrai que lorsqu'on prend des coups, il faut se défendre. C'est un combat. On a tous passé par là. Hein. Moi, depuis ces nombreuses années, je me rappelle les premières fois où j'ai pu témoigner et comment j'ai pu être ramassé. Et parfois ramassé par ceux à qui je témoignais, mais par des chrétiens qui trouvaient que j'exagérais. C'est fou. Le bon combat, on a besoin de réfléchir à ça, frères et sœurs, aujourd'hui. On a à mener un combat où nous exerçons vraiment notre autorité par le Saint-Esprit pour annoncer la bonne nouvelle. Je me réjouis que notre assemblée s'appelle la bonne nouvelle. Et quand les gens viennent, ils disent « On va à l'église de la bonne nouvelle ». Ah ! J'espère qu'il n'y a que de bonnes nouvelles. Que nous prononcions des bonnes nouvelles et que cela se soit sensible à tous, visible. J'ai cru et j'ai vu. Quelles sont ces saines paroles ? Le salut est accordé par grâce. La grâce de Dieu. Et non pas la capacité, la qualité d'un individu ou d'un autre. Par grâce. Quand nous voyons des personnes qui ont commis des actes abominables, oui, qui sont justiciables par des condamnations des fois terribles, mais on en voit parmi ces gens-là qui se convertissent et qui se tournent vers Dieu et qui sont des nouvelles créatures et qui le manifestent pleinement. Quelle joie! Si on regarde qu'à son passé, c'est toujours une créature abominable. Mais si on regarde à son présent, à ce que Dieu a fait, c'est une créature merveilleuse. Le bon combat, ils ont compris cela aussi, qu'il y avait un sauveur et un seigneur, même si les hommes autour d'eux et les femmes disent qu'ils sont encore des personnes abominables, Dieu les voit comme des êtres merveilleux et leur donne la possibilité de continuer sur un autre chemin, sur le bon chemin de la foi. Le combat, vous aura mené. Le salut est là. Les œuvres, celles qui sont préparées d'avance par Dieu. Amen. Celles qui sont préparées d'avance par Dieu, par celles qu'on voudrait faire à tout prix. Nous avons à mener le vrai combat, là. Le service, être au service de Dieu et au service de l'Église. l'autre jour, on parlait qu'il y a besoin de personnes qui s'engagent dans l'Église, dans les services. Ah, c'est un combat, hein ? Qui peut ? Qui veut ? On a besoin, à la limite, de bras, de jambes et de tête, pour que l'Église avance et gagne le combat, le défrichage du champ. Cette parole qui a été donnée par Robert au début de l'année, elle est encore là dans mon cœur. Il faut qu'elle soit dans notre cœur, que soyons prêts à défricher encore, et encore, et encore. Vous savez, les mauvaises herbes, ça pousse très vite. Hein. On voit chez nous, je regardais en sortant ce matin du chemin, je voyais des ronces qui descendaient d'une haie qu'on a là. J'ai dit, mais oh là là, à la vitesse où elles poussent. Vous savez, les mauvaises herbes et les ronces poussent très vite dans les vies aujourd'hui. Parce qu'il y a tellement de tentations dans le service de Dieu. Mettons-nous au service. Donnons-nous pour que l'Église soit connue et vue. Et que par notre témoignage à chacun, les gens soient convaincus qu'il y a un Dieu tout-puissant et qui change tout ce qui est autour de nous. Et la sanctification, c'est marqué, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Je l'ai appris à mes dépens. C'est important de se sanctifier. Parfois, on se laisse aller. Et on est repris. Et si on est surpris dans cette mauvaise position, quel dégât pour l'Église ? La sanctification, sanctifions-nous. Et surtout, n'oublions pas le pardon, qui est aussi une des valeurs essentielles des saintes paroles. Pardonnez comme moi je vous ai pardonné, dit Jésus. Voilà un combat dans lequel on est attaché aux saintes paroles, à la sainte écriture. Mais ce qui est important, ce n'est pas de la connaître l'écriture, c'est de la mettre en pratique. Il y a des docteurs de la loi, ils connaissent tout, mais ils n'appliquent pas. Jésus leur a reproché. Il a même dit un jour, vous avez la clé du royaume, vous la gardez et vous ne laissez personne entrer. Quand on y pense, c'est fou. Soyons ceux qui ouvrent les portes, qui permettent que les portes s'ouvrent et que des hommes et des femmes se convertissent parce que nous voyons, nous manifestons la réalité de cette foi en nous. C'est pour ça que le combat aujourd'hui, encore, le combat aussi de Timothée comme le nôtre, ça consiste aussi à rester dans la foi. Combat, le bon combat de la foi. Dieu est saint, il nous veut saints. Ce combat se manifeste dans notre vie à chacun. Nous sommes sous le regard de Dieu, mais nous sommes aussi sous le regard des hommes. La foi, c'est quelque chose qui nous dépasse. Quand les gens nous demandent, mais comment ? Qu'est-ce que c'est que la foi ? Qu'est-ce que c'est que la foi ? En Hébreux 11:1 dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est tout un message à donner sur ces deux portions de phrases. Démonstration des choses qu'on ne voit pas, une ferme assurance des choses qu'on espère. Mettons notre expérience dans le Seigneur. Nous mettons notre vie à ses pieds. On se donne totalement. On abandonne tout ce que nous avons pour le servir, lui, et l'honorer lui. Combien de disciples de Jésus qui le suivaient parfois de loin, parce qu'ils disaient, on te suivrait bien, mais laisse-moi d'abord enterrer mon Père. Et Jésus dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Je te suivrai, futur. Dieu attend de nous à présent. Je te suis. Je vis pour toi. La foi et la piété, c'est un peu semblable, mais Paul disait aussi à Timothée, la piété ou la foi avec le contentement est une grande source de gain. Heureux de vivre ce que Dieu nous dit de vivre, nous montre de vivre, quelles que soient les circonstances. Vous savez, quand j'ai pu avoir, et puis Marie-Thérèse et moi aussi, on a eu des épreuves au niveau de la santé. On aurait pu se lamenter, hein, gémir. Pourquoi Dieu permet ça? C'est pas juste. Moi, je préfère vouloir marcher, courir, voir. Hein. Mais Dieu permet aussi des situations dans lesquelles nous devons manifester notre foi. C'est bien quand tout va bien. C'est parfait. On peut se réjouir, tout va bien. Et quand les choses vont mal, il est important de garder la foi, malgré tout. Et contre tout. Oh, vous, les jeunes, vous allez vivre des années après moi, dans lesquelles vous aurez sûrement des expériences à vivre, mais aussi des épreuves à traverser. Mais je vous demande aujourd'hui de persévérer par la foi. De persévérer et encore. Il y avait un prédicateur, un évangéliste, Jean-Michel Panier, que pour quelques-uns l'ont connu, moi, on se connaît depuis une trentaine d'années. Et il disait, percez et vous verrez. Persévérez. Avancez, et vous verrez. Parce que la foi, c'est aussi une marche en avant. On ne sait pas ce qui nous attend dans quelques minutes. Tout à l'heure, demain, on ne sait pas. Je dis, la parole est une lampe. Dans le psaume 119, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ça n'éclaire pas très loin. Et si ça n'éclaire pas très loin, on n'est pas très, comment on pourrait dire, très calme. Vous êtes en train de marcher dans un chemin, et puis vous avez une petite lampe torche qui vous éclaire à 2-3 mètres, et puis vous ne savez pas ce qui est un peu plus loin. Hein, ou les enfants, là. Il y a quelques-uns qui sont là. C'est pas facile lorsqu'il y a l'obscurité. Hein. Moi, quand je me rappelle, quand j'étais gamin, et que je me réveillais le matin, et que mes parents avaient mis les volets fermés, je ne pouvais pas supporter les volets fermés. Je me levais rapidement et j'ouvrais les volets. Vive la lumière! Vive la lumière! C'est ça, c'est spirituel aussi. Hein, vivre dans la lumière. Pas rechercher, ne pas se cacher. Pour certains, ils ne peuvent pas supporter la lumière. Tout est fermé chez eux. Je me rappelle d'avoir été une fois dans une famille des années, quand on rentre à la maison, tous les stores étaient baissés. Il y avait une petite lampe ici et là. J'ai dit, mais pourquoi on veut être tranquille? Ah. On ne veut pas que les voisins nous voient. Ah. Mais je me dis, chez nous, il n'y a pas de volets. C'est vrai qu'on n'a pas de voisins non plus. À part les oiseaux. Peut-être quelques biches qui passent des fois sur la pelouse, des lapins. Mais on n'a pas de volets. La lumière. Pourquoi se cacher? Qu'a-t-on à cacher? La foi, c'est se montrer tel qu'on est, avec la puissance de Dieu. Être une démonstration soi-même de ce que Dieu a fait. et que les hommes et les femmes voient ce que nous sommes. On parle d'être témoin. Mais témoin, c'est quelque chose qui est visible. Ce n'est pas celui qui raconte, qui rapporte un événement. Le témoin, c'est un exemple, un modèle. Quand on parle, par exemple, de l'étalon, témoin. Quand on parlait du maître étalon, les témoins. On peut le voir, on peut le toucher, on peut le regarder. On peut mal aligner de lui parler, je ne sais pas s'il répondra. Mais nous, en tant que témoins, nous sommes visibles. N'oubliez pas. Alors attention, quand vous allez dans un magasin et que vous êtes tenté par un petit objet qui est intéressant, et que vous le mettez en douce dans votre poche, et que juste à la sortie, voilà le vigile qui vous prend. Et en plus, ce vigile est peut-être un chrétien qui vous connaît. Attention. Nos actes sont vus. Tant par les frères, les sœurs, que par les gens du monde, mais aussi par Dieu. On rappelle toujours quand on dit qu'on pointe le doigt vers quelqu'un, vous savez. Il y a un doigt qui pointe, mais il y a un vers le haut. C'est Dieu. Et les trois autres, c'est vers nous. Hein. Quand on parle de jugement, on pointe le doigt vers quelqu'un, mais attention, le jugement est porté aussi vers nous. Parfois, ce geste, on ne se rend pas compte de la portée d'un geste. Frères et sœurs, soyons vigilants dans notre foi. Ce que nous disons, nous le vivons. Et il y a un troisième point dont parlait Paul à Timothée, c'est une bonne conscience. Ah ! Une bonne conscience. Rabelais disait une chose. La science sans conscience est ruine de l'âme. Dans les essais de Montaigne. De Rabelais, pardon. Rabelais. Science sans conscience est ruine de l'âme. Science, je connais tout. La parole de Dieu n'est pas un secret pour moi. Je l'utilise pour juger les autres, pour les enseigner, pour les encourager, mais moi, je suis à l'abri de tout. Hein. C'est pas moi, hein, c'est quelqu'un d'autre. Science sans conscience et ruine de l'âme. L'âme, je te redemande ton âme, a dit le Seigneur à cet homme qui avait de grands biens, qui voulait construire des greniers, dit ce soir, je te réclame ton âme. Examinons-nous nous-mêmes. Soyons à chaque instant, on peut dire, je veux que ce soit une obsession, mais que nous puissions être, comment dirais-je, conscients de ce que nous sommes. De savoir ce qui est, au fait, le bien et le faire, et le mal s'y opposer. Aujourd'hui, le bien et le mal, dans notre monde aujourd'hui, on ne sait plus où ça en est. Hein. Il y a toujours, on dit dans un pays africain où on était allé, il y avait un article 15 dans la Constitution. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça rappelle quelque chose, l'article 15. Il y avait 14 articles dans la Constitution, et on a jeté un 15e. Débrouille-toi. Débrouille-toi. Donc tu peux faire ce que tu veux, puisque c'est dans l'esprit de la Constitution. Un chrétien se débrouiller, c'est autre chose. Hein. Un chrétien se soumet. Ne cherche pas à se faire, on peut dire, valoir d'une certaine manière et à profiter des circonstances et des situations.
une bonne conscience. Il y a un texte dans l'Ancien Testament, on va peut-être le lire dans 2 Samuel chapitre 23. Donc c'est avant les rois. 2 Samuel chapitre 23. À partir du verset 13. Trois des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David, dans la caverne d'Abulam, lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée des Réphaïm. David était alors dans la forteresse et il y avait un poste de Philistins, donc à Bethléem. David eut un désir, eut un vœu, on le dit. Et il dit, qui me fera boire de l'eau? Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors donc, les trois vaillants parmi les vaillants, passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau à la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David. Mais il ne voulut pas la boire. Il a répondu devant l'Éternel. Il dit, loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces trois vaillants hommes. David eut conscience de l'horreur de sa demande. Des vœux, des désirs qu'on peut exprimer et qu'on pense que ce n'est pas nuisible. Mais ce désir était mortel. Ils ont traversé le camp des Philistins, allaient chercher de l'eau, l'on donnait à David. C'est comme s'il était... David était une idole. Ce qu'il a dit, il faut le faire. Ben, il nous dit d'examiner toute chose, de réfléchir. Et l'attitude de David est aussi excellente d'un côté parce qu'il s'est repenti. Il a reconnu que ce qu'il avait dit était horrible. Il a demandé pardon. Il a refusé de boire cette eau parce qu'elle aurait pu être, en somme, salie par le sang de ces trois hommes. Et ça m'a frappé, ce texte. De voir qu'on peut dire des choses sans se rendre compte de la portée de ce que nous disons. Avoir une bonne conscience. Réaliser nos erreurs et nos fautes. Nous humilier devant le Seigneur. Reconnaître qu'on s'est trompé. Et le dire aux personnes à qui on a pu commettre ces choses. Aujourd'hui, on oublie souvent la dimension de la repentance et de la demande de pardon. De reconnaître qu'on a pu se tromper et qu'on a dit des choses qui n'étaient pas justes. Et le faire avec humilité. Il faut que nous soyons clairs, frères et sœurs, dans notre combat. Une foi sincère, attachée à la parole de Dieu véritablement et réfléchissons à notre position et à nos façons de nous comporter par rapport au monde. Avoir une bonne conscience. Pouvoir s'examiner soi-même et reconnaître qu'on a fait des erreurs. Je connais des personnes qui disent « c'est pas ma faute, c'est toujours la faute des autres. J'y suis pour rien, c'est les autres. » Réfléchissons à cela. Si nous sommes dans cette position, parfois, de dire que si une chose m'est arrivée, c'est parce que l'autre s'est mal comporté vis-à-vis de moi ou a fait une chose qui est... Et je l'ai suivi, je n'aurais pas dû le suivre. Je n'aurais pas dû le suivre, mais qu'est-ce qui t'a empêché de ne pas le suivre? si tu avais une bonne conscience, si tu réfléchissais à ce que tu faisais. Ce combat m'a interpellé, frères et sœurs. Là, ça s'adressait à un jeune, il avait peut-être une trentaine d'années à cette époque-là. Quand, en somme, quand Paul, qui était un homme âgé déjà, qui avait vécu à un moment donné en prison déjà à Rome et qui avait été libéré et qui se retrouvait de nouveau dans le service de Dieu, malgré tout et contre tout, sachant que dans peu de temps, la foi chrétienne serait interdite par l'Empire romain. Il savait. Il avait eu déjà les prémices là-bas, lorsqu'il était à Rome. Et il allait de nouveau être arrêté et condamné et exécuté. Mais il disait à Timothée, combat le bon combat. Continue malgré tout. Il y a... Au 18e siècle, au 19e siècle, des missionnaires français, ou je pense que oui, ces Français sont venus à Madagascar, et étaient venus pour évangéliser. Il y avait une reine qui était assez terrible sur cette île. Elle a accepté pendant un moment que ces missionnaires soient là, mais elle a vu le danger pour sa propre vie et pour sa propre place. Et elle a fait arrêter tous les chrétiens et les assommer de revenir à leur religion animiste. Elle les a fait monter sur une hauteur avec une falaise importante, rocheuse, et ils ont demandé, reniez votre foi, revenez de votre mauvaise foi. Et soumettez-vous à ce que je veux, moi. Ils ont dit non. On les a roulés dans des nattes et on les a jetés du haut de la falaise. Un par un. Chacun, on lui posait la même question, chaque personne. Et puis voilà, la dernière, c'est une femme qui était là, dernière, il ne restait plus qu'une. Et puis bon, on a dit c'est une femme. Pardon pour vous, mesdames. Je vais en faire mon esclave. Je la garde vivante. À partir de cette femme, la foi chrétienne s'est développée à nouveau. Une personne. Parmi tous ceux qui avaient gardé leur position de foi. Je renie pas ma foi. Je crois que Jésus est mon sauveur. Je crois qu'il a payé pour moi. Je crois qu'il m'a donné une vie nouvelle par grâce. Je suis pardonné, je suis changé. Je ne renie pas ma foi. Et cette femme, elle n'avait pas renié sa foi. Mais à travers elle, l'Église a de nouveau s'est développée. Un témoin. Il suffit d'une personne inspirée par Dieu pour que tout renaît. Pensons cela, frères et sœurs. Nous sommes importants, chacun d'entre nous. Et que le combat que nous avons mené, même dans notre famille, souvent on dit qu'on n'est pas prophète dans notre famille. Ça, c'est vrai. Dans la famille, de mon côté, j'ai deux sœurs et un frère. Niette. Côté Marie-Thérèse, elle a une sœur, pareil. Nous sommes des gens un peu bizarres. C'est bon pour vous, mais on n'en a pas besoin, nous. Elle est quand même témoin de ce que l'on vit. Même si on ne reçoit pas de nouvelles. On continue, on persévère, on va jusqu'au bout. On y va. La foi, une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le bon combat de la foi. Amen. Prions un instant. Seigneur, je te remets nos vies à chacun. pour que ton nom soit glorifié par chacun de nous. Que nos vies personnelles rayonnent de toi. Tu as dit que nous étions la lumière du monde, Seigneur. Tu as dit que nous sommes pas une lampe qu'on met sur le boisseau et qu'on ne voit pas. Tu es celui qui nous donne la force de tenir ferme et de résister à toute tentation et à tout abandon. Merci pour ce matin, pour ce que tu peux nous apporter à chacun, dans notre foi, dans l'engagement qui est le nôtre. Pas simplement le dimanche ou le mardi, ou les réunions de maison, mais dans le quotidien de notre vie. Merci de nous fortifier, Seigneur. Merci de nous fortifier encore et encore et encore. Et d'aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout dans la carrière que tu as mis devant nous. Dans cette marche qui est la nôtre. Tu as dit que nos forces augmentent avec la marche. C'est vrai, Seigneur. C'est peut-être une marche physique, mais c'est une marche dans la foi, dans une assurance, dans une certitude. Il y a quelque chose après la mort. Tu nous as préparé une place. Nous le disons et le proclamons encore ce matin. Alors merci et loué sois-tu pour ce que tu veux accomplir au milieu de nous. Je t'en remercie, Seigneur. Amen.